Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Et des valeurs judéo-chrétiennes. Ce triple constat, Raymond Paulin le faisait devant un personnage qui, 13 ans plus tard, allait prendre une dimension majeure dans l'histoire du catholicisme. J'ai nommé le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI. Élu à l'unanimité en 1992 par l'Académie au titre de membre associé, le cardinal Ratzinger a aussi été reçu par M. Jean Foyer. Jean Foyer, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été élu vous-même, bien avant le cardinal Ratzinger.
Je l'ai été en 1984.
Voilà, dans la section législation, droit public et jurisprudence.
Exactement.
Vous êtes donc juriste, ancien universitaire, votre carrière est bien riche puisque vous êtes ancien parlementaire, ancien ministre du général de Gaulle.
Alors, je suis agrégé des facultés de droit. Et j'ai été professeur à l'université de Paris 2, après avoir été appartenu à l'université de Lille.
Alors, je vais commencer cette émission, Jean Foyer, par une question, au fond, purement pédagogique. Comment le cardinal Ratzinger est devenu...
Nous pratiquons, je dirais, une laïcité intelligente, et que nous limitons pas notre recrutement de théologiens aux seuls catholiques. Il y avait un très grand théologien protestant, qui était le professeur Kuhlmann, pour lequel j'avais beaucoup d'amitié, et il y avait enfin une grande personnalité israélique qui était le grand rabbin Kaplan. Ça en faisait 4 sur 50. C'était une bonne proportion pour les théologies des diverses religions judéo-chrétiennes. Et alors, les deux théologiens catholiques sont décédés en 84 ou 85, et en 92 ou 13, en 92, il n'y avait plus un seul théologien catholique. Il ne restait que notre confrère protestant, et le grand rabbin Kaplan. Et comme un siège d'associé étranger était vacant, l'idée m'est venue que le cardinal Ratzinger aurait tout à fait sa place au sein de cette académie.
Donc c'est vous qui avez soutenu
cette candidature. C'est moi qui l'ai proposé. Le cardinal Ratzinger a eu le bon esprit, depuis maintenant une trentaine d'années, de faire traduire et d'éditer en français des textes dont il était l'auteur. Et bien entendu, ont été diffusées les déclarations, les notes émanant de la Congrégation pour la doctrine de la foi dont il était le préfet, c'est-à-dire le président, mais également des quantités de travaux personnels, car c'est un homme qui, indépendamment de sa fonction de président d'une congrégation romaine, une espèce de ministère du Saint-Siège, a également et continuait à travailler beaucoup. Il publiait des articles, il donnait des conférences, il publiait des livres, et la plupart de ses ouvrages ont été traduits en français, par conséquent, ils étaient d'une lecture commode, car je vous avoue que s'il avait fallu que je lise les œuvres du cardinal Ratzinger en allemand, j'aurais vidé les étriers assez vite. La langue allemande n'est pas facile, et d'autre part, lorsque elle exprime des idées théologiques ou philosophiques, elle est encore moins facile à absorber par le commun des mortels. J'avais donc lu un assez bon nombre de ses ouvrages, qui m'avaient paru tout à fait remarquables, et j'ai pensé que, comme associé étranger, il aurait tout à fait cette place dans la catégorie des associés étrangers où avait figuré avant lui von Balthasar, et il se trouve que le cardinal Ratzinger était personnellement un grand ami des deux théologiens catholiques qui avaient appartenu à l'Académie. Il était très lié d'amitié avec le père de Lubach et il était très lié également d'amitié avec von Balthasar. Et tous les trois ont été à l'origine d'une revue qui a des éditions nationales multiples et qui s'appelle Communio. Par conséquent, il recueillait une espèce de succession dans ce cas-là qui lui revenait plus tard. Alors, pour la procédure d'élection, de recrutement des associés étrangers, n'est pas du tout la même que celle des titulaires français.
Il n'y a pas de campagne.
Ben oui, les titulaires français, l'Académie déclare ouverte une vacance et elle fixe un certain délai durant lequel les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature. Alors, on ne pratique pas de la même manière pour les associés étrangers, pour des raisons qui vous apparaîtront être tout à fait évidentes. D'abord, on ne veut pas les forcer à faire une démarche. Et puis ensuite, si une personnalité étrangère posait sa candidature et qu'ensuite on ne l'élise pas, ce serait extrêmement désobligeant pour elle. Probablement, ça ne se produirait pas, mais la situation inverse pourrait à ce moment-là se produire, c'est qu'une candidature soit présentée et que nous soyons dans la nécessité de l'accepter parce qu'on ne voudrait pas faire de problème. Enfin, on n'aurait pas à ce moment-là, on n'aurait pas la liberté qui est une condition fondamentale des élections académiques. Alors, les choses se posent de la manière suivante. On réunit une commission et cette commission propose un nom. Alors, celui qui a pris l'initiative de Lyon en question, en général, a pris une précaution préalable, qui était celle de pressentir la personnalité en question et de lui dire, sans lui promettre d'ailleurs de l'élire, mais de lui dire, est-ce que le cas échéant, si on vous proposait d'être membre de l'Académie des sciences morales et politiques, est-ce que vous accepteriez ? Alors, j'ai pas fait la démarche moi-même, je dois le dire, j'ai demandé au cardinal Lustiger de la faire. Et la réponse du cardinal Ratzinger a été qu'il serait tout à fait fier et satisfait d'être élu à l'Académie des sciences morales et politiques. La procédure s'est déroulée. À la commission, j'ai proposé le nom du cardinal et la commission l'a adopté. Et ensuite, la commission a présenté sa candidature en séance plénière de l'Académie. Je crois même que c'est moi qui ai dû faire le rapport. Et il a été élu à l'unanimité. Alors après quoi, il y a eu la séance solennelle à laquelle vous avez fait allusion, celle du mois de décembre 1992. Raymond Paulin était le président en exercice de l'Académie. Il a donc accueilli le cardinal et l'a salué dans les termes que vous avez rappelés tout à l'heure. Et ensuite, j'ai fait son éloge, ce qu'on appelle en latin sa laudatio.
Alors justement, Raymond Paulin, dans son allocution, disait que cette élection, cet appel, répondait à une inquiétude face au développement du subjectivisme, face à la crise de la spiritualité. Cette inquiétude était aussi la vôtre ?
Oh ben bien sûr, vous savez, dans cette période de 1970 à 1990, c'était les suites du Concile Vatican II qui ont été tout à fait singulières et paradoxales. Il ne faut pas faire le procès de ce Concile qui a voté des textes qui sont en 1977. 1977, c'est la date de sa nomination à l'archevêché de Munich. Et puis il l'a raconté d'ailleurs dans d'autres livres. Il y a là notamment un volume qui est de réponse à un questionnaire posé par un journaliste, qui a été fait, je crois, au départ en allemand, qui a été traduit en français, qui s'appelle « Le sel de la terre ». Et il raconte absolument tout ça, mais avec une parfaite franchise. Alors, au départ, le cardinal Ratzinger, il n'était pas cardinal à l'époque, qu'est-ce qu'il était ? Il était professeur. Il avait fait, dans l'Église, une carrière de professeur de théologie.
Deux thèses, une sur Saint-Augustin, une sur Saint-Bonaventure.
Alors, il avait fait une thèse de doctorat sur la notion de maison et de peuple de Dieu, d'après Saint-Augustin. Et ensuite, il avait été obligé de faire une deuxième thèse, parce que dans le système allemand de recrutement des professeurs d'université, à la différence de ce qui existe, par exemple, dans ma corporation, des professeurs de droit, où il faut passer un concours d'agrégation, là-bas, il n'y a pas un concours d'agrégation, il faut soutenir une deuxième thèse. Et cette formalité ne s'appelle pas l'agrégation, ça s'appelle l'habilitation. Alors, il a fait une deuxième thèse d'habilitation dans laquelle il a traité de l'ecclésiologie de Saint Bonaventure. Il raconte d'ailleurs que ça lui a valu beaucoup de difficultés.
Oui, parce qu'en fait, il se révèle assez moderniste.
Mais tout à fait.
Et ce modernisme, il va le mettre en avant pendant le Concile Vatican II. Je vous arrête quelques instants, Jean Foyer. Nous allons nous retrouver, si vous le voulez bien, après une première pause. À tout de suite.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales. Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance.
Pareil, des projets de nomination de commissions de pères conciliaires qui seraient chargés de rapporter les questions en cause. Et alors, il y a eu une espèce de coup d'État, provoqué d'ailleurs par des cardinaux qui n'étaient pas du tout des gauchistes effrayants, mais dont était le cardinal Frinsk, aidé par Ratzinger, le cardinal Liénard, qui était évêque de Lille, qui ont dit ben, « c'est pas ça, on va pas se laisser imposer un travail tout préparé. Vous voulez nous faire nommer des membres d'une commission, mais on ne se connaît pas entre nous d'un bout d'une autre à l'autre. Alors, il faut nous laisser quelques jours pour nous connaître. Et puis, si nous venons là, c'est pour dire ce qui nous paraît nécessaire de faire et de modifier et de changer. Et on n'est pas là uniquement comme chambre d'enregistrement pour adopter les textes qui ont été préparés. » Finalement, ils ont gagné, ceux-là. Alors, les commissions en question n'ont pas été composées telles que la curie pontificale l'avait proposé, et ils ont refait tous les textes qui leur étaient proposés. Et à cette époque-là, le cardinal Ratzinger s'est montré disons, novateur sur beaucoup de points. Et si vous prenez ses ouvrages, par exemple, peut-être y revenir tout à l'heure, il a pris des positions qu'on a bien tort de lui reprocher aujourd'hui parce qu'elles sont singulièrement étonnantes, notamment les positions qu'il a prises sur l'œcuménisme. C'était un esprit très ouvert qui était décidé à tenir compte de tout à fait d'éléments, des progrès de l'exégèse, de ce qu'avaient fait les sciences humaines, etc., etc. Mais il s'est produit chez lui, sur un certain nombre d'autres de ses confrères, un changement radical qui a été provoqué par une espèce de, j'allais presque dire, de révolution culturelle qui s'est produite notamment dans les universités, dans les facultés de théologie allemande, catholique ou protestante.
Chose qu'il a pu voir, vu qu'il était universitaire.
Il était même doyen d'une faculté de théologie. Et alors, ça a été bien pire que ce que nous avons pu voir, nous, en 1968. Parce qu'en 1968, vous avez eu une foire, une espèce de chienlit, mais elle a duré quelques semaines. Et puis, la manifestation dans la rue, le discours du général de Gaulle, et pratiquement, ça s'est tassé. On est revenu à une situation à peu près normale. Mais là-bas, ça a été beaucoup plus grave. Et c'était beaucoup plus grave parce que ça n'a pas seulement consisté dans des manifestations qui relevaient d'ailleurs chez nous en large part du chahut, mais ça marquait la pénétration dans ce milieu universitaire d'un marxisme violent.
Est-ce que dès lors...
Alors à ce moment-là, ils se sont dit, on ne peut pas laisser passer ça.
Est-ce que dès lors, une page est tournée il devient conservateur. J'ai pu retrouver la première fois qu'il a été qualifié de conservateur, c'était par le cardinal Döpfner en 1966. C'est une nouvelle vie intellectuelle pour lui.
Moi, je crois que c'est tout de même. Non, il a voulu marquer un coup d'arrêt sur un certain nombre de points, mais il n'a pas changé complètement. Il n'a pas changé complètement. Il professe encore sur un certain nombre de points ce qu'il disait au début du concile. Sauf dire, parce qu'à ce moment-là, il a été nommé archevêque de Munich. Et peu de temps après sa nomination épiscopale, il a été fait cardinal. Et puis, dans un troisième temps, il a été appelé à Rome. Il a dû être peut-être 3 ou 4 ans archevêque de Munich. Puis il a été appelé à Rome pour exercer les fonctions de préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi.
Alors, venons-en plus précisément à la pensée du cardinal Ratzinger. L'ecclésiologie semble être le thème central de son œuvre. Quelle est sa conception des choses sur ce point ?
Écoutez, dans sa conception de l'ecclésiologie, il s'est tout de même montré, j'allais dire, très ouvert et passablement novateur. Enfin, il a adhéré à toute l'ecclésiologie qui a été définie par le Concile Vatican II, essentiellement par la Constitution Lumen Gentium, avec l'idée de la collégialité, l'exercice du magistère, du ministère pétrinien, comme on dit, de l'évêque de Rome. D'ailleurs, ce qui montre, si vous voulez, que ces conceptions ne sont pas des conceptions retardataires, c'est un certain nombre de choses qu'il a dites et qu'il a écrites, et notamment... Sur l'œcuménisme, il a dit des choses, j'allais dire des choses qui sont assez avancées, parce que il a écrit par exemple qu'il adhérait en grande part aux thèses qui étaient défendues par le professeur Kuhlmann, avec lequel d'ailleurs il était devenu très ami, dans un livre intitulé « L'unité dans la diversité ».
Mais cette position, est-ce qu'elle n'est pas en contradiction avec le texte qui sera publié en 2000 et qui va d'ailleurs faire beaucoup de bruit. Je me souviens personnellement d'un article d'Henri Tang dans Le Monde critiquant cette position.
Ah, c'est Dominus Iesus.
Dominus Iesus, exactement.
Oui et non. Enfin, dans Dominus Iesus, il a pris position sur deux problèmes, sur le dialogue interreligieux en général et ensuite sur l'écuménisme. C'est alors là le dialogue entre chrétiens. Mais on a fait le procès du document de Dominus Iesus, qui n'est d'ailleurs pas uniquement de lui. Hein, c'est...
Vous écoutez Canal Académie, on retrouve Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit Jean Foyer et nous évoquons le cardinal Ratzinger, nous évoquons toute la période 1992 jusqu'à son élection où bien évidemment le cardinal Ratzinger a beaucoup écrit, enfin il a rédigé 3 discours qui ont été prononcés à l'Académie des sciences morales et politiques. Ces discours sont disponibles sur le site internet www.asmp.fr. Il y a un premier discours sur Andrei Sakharov, sur le thème de la liberté. Il y a un deuxième discours très complexe sur la théologie de l'Alliance dans le Nouveau Testament. Et enfin, un dernier discours sur le dialogue religieux avec les Juifs. Alors, je vais commencer par ce dernier discours qui a été prononcé en 1997, celui de la relation entre les Juifs d'une part et les chrétiens. Quel sens donne-t-il à cette relation? Est-il, là encore, novateur?
Il est novateur, oui. Il est là-dessus, il n'est pas plus que ne l'a été Jean-Paul II. C'est exactement, sa position est exactement celle du pape. Cette conférence, cette communication de 1997, elle m'a laissé certains souvenirs, car il se trouve que c'est moi qui l'ai élu. Car le cardinal Ratzinger avait accepté l'invitation de ce rabbin à dialoguer avec lui à l'Académie des sciences morales et politiques, et l'Académie avait accepté la chose. Et l'avant-veille de la séance, le cardinal Ratzinger a eu un empêchement, il était obligé de rester à Rome le jour de la séance. Alors il m'a fait envoyer le texte de sa communication et il m'a demandé d'en donner lecture. Bon, j'ai donc été son porte-voix dans la circonstance. Oui, mais je crois que là-dedans, c'est là. Il y avait chez lui, comme il y avait chez Jean-Paul II, moi, il faut essayer de continuer à entretenir les meilleures relations avec eux. Et quand il y a des actions communes qui sont possibles aux uns et aux autres ensemble, eh bien, il ne faut pas hésiter à les mener. Je crois que c'est ça sa position.
Alors, il dit qu'il mise sur l'unification des religions comme résultat du dialogue interreligieux ne peut qu'être déçu. Donc, il n'y a pas de syncrétisme. L'ouverture aux autres ne signifie pas forcément le renoncement à sa propre identité.
Mais certainement pas. Mais ça, il a insisté sur cette idée-là à plusieurs reprises. Il a écrit 2 articles très intéressants, d'ailleurs, sur l'histoire de l'œcuménisme à partir du Concile de Vatican II. Alors, le Concile de Vatican II avait pris des positions tout à fait ouvertes. Et par la suite, il y a eu une certaine période d'enthousiasme pendant laquelle, justement, on a cru qu'on allait réussir à faire des réconciliations avec les protestants ou avec les orthodoxes. Alors, ça a été, si vous voulez, une période euphorique. Et à ce moment-là, on a constitué des commissions pour essayer de trouver des positions communes sur un certain nombre de problèmes. Et puis après ça, il y a eu une période d'effervescence, si vous voulez, de déception, parce qu'on s'est aperçu que finalement, ça ne pouvait pas aller partout où on voulait aller. Et ben, l'affaire en est restée là. Il en est tout de même resté un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'au lieu de se regarder en chien de faïence, on a accepté de se parler sur un ton aimable, j'allais dire fraternel, mais sans être en mesure de faire une réunification qui, dans la majorité des cas, est quelque chose qui est tout à fait impossible. Parce que il faut bien dire que la réunification, l'unité des chrétiens, c'est une opération qui ne peut pas avoir le caractère de ce que les juristes appellent le contrat de transaction. C'est un accord qui est destiné à la réconciliation des parties en conflit et qui est caractérisé par le fait que dans le contrat de transaction, les parties se font des concessions réciproques. Mais on peut faire des concessions réciproques lorsqu'on est en conflit sur une question de bien. On peut convenir de partager une certaine somme d'une certaine façon, de régler un problème immobilier d'une certaine façon, mais il faut se dire que dans ce problème de réconciliation religieuse, ni les catholiques n'y lient très nettement la réconciliation, l'unification. Elle ne peut pas être simplement imposée d'en haut. La réconciliation qui pourrait intervenir entre le pape des patriarches ou des présidents de fédérations protestantes, si la base n'y adhère pas, ça ne donnera rien de défini. C'est la première chose qu'il dit. Et il dit la deuxième, il ne faut pas non plus s'imaginer que ça peut se réaliser par la base toute seule. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se faire? Ce qui se fait déjà d'ailleurs, ça va être des réunions de personnalités toujours bien intentionnées, quelquefois d'ailleurs très compétentes, qui essaient de trouver une solution de conciliation. Mais si cette opération-là n'est pas patronnée par les responsables des 2 églises en question, ça ne donnera rien non plus, si ce n'est d'augmenter la diversité. Et il va très loin parce qu'il va même dans ce livre qui s'appelle « Église, œcuménisme et politique »
paru aux éditions Fayard.
Il reprend les idées qui ont été développées par le professeur Kuhlmann, éminent théologien protestant, comme vous le savez, dans son livre « L'unité dans la diversité ». Et il arrive à nous dire que finalement, les desseins de la Providence étant difficiles à discerner, qu'après tout, cette diversité qui s'est établie a quand même un certain nombre de fruits. Au jour du jugement définitif, on s'apercevra qu'au total, ça n'a pas été si mal que ça. Alors, quant aux ces opérations d'écuménisme, vous avez eu plusieurs tentatives qui ont été faites. Il y en a une qui n'a pas été achevée, mais qui pourrait réussir. Ce serait la réconciliation avec les orthodoxes. Et là-dessus, Jean-Paul II et Ratzinger, je ne sais pas qui, avaient proposé la formule à l'autre, ont dit qu'il devrait être possible de trouver un accord sur les modes d'exercice de la primauté romaine. Et après tout, Jean-Paul II n'a pas réussi l'opération. Il n'est pas dit que Benoît XVI ne pourra pas faire avancer très sensiblement la chose avec la Russie. Les relations qu'il a eues avec d'autres églises orthodoxes ont été finalement, on les croyait que ça allait mal se passer. Et ça s'est...
On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée au cardinal Ratzinger et à son élection en 1992. Alors, nous avons évoqué les rapports des juifs et des chrétiens. Nous avons évoqué l'œcuménisme. Il y aurait bien d'autres choses encore à dire.
Ah oui, il y aurait à parler notamment des relations avec les protestants et notamment des relations avec les anglicans.
Cela pourra faire bien évidemment l'objet d'une autre émission.
Il y a eu la grande difficulté avec les anglicans. Ça a été que les anglicans ordonnent des femmes évêques et ordonnent des évêques homosexuels.
Tout autre débat. Alors, il y a un autre texte qui est un texte consacré à la théologie de l'Alliance dans le Nouveau Testament, sur la place de l'homme dans sa relation avec Dieu. Je renvoie nos auditeurs à ce texte qui se trouve sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques, www.smp.fr. Et j'en viens tout de suite au troisième texte du cardinal Ratzinger, qui est le fameux texte
oui,
de son élection.
Oui, vous me permettrez quand même sur le texte relatif à l'Alliance. C'est un discours de théologie, et est écrit dans une langue claire, mais enfin qui est tout de même quelque chose d'assez profond et d'assez dur. Là, j'en porte la responsabilité, parce que cette année-là, j'étais président de l'Académie, et j'avais pris comme thème général le contrat entre Dieu et son peuple. Alors, la première communication avait été faite par un de mes amis, qui est un théologien juif qui s'appelle André Chouraki, traducteur, entre autres choses, d'une Bible. Et la deuxième, alors il avait traité des alliances dans l'Ancien Testament, et puis la deuxième séance, j'ai demandé au cardinal Ratzinger de faire sa conférence sur l'alliance dans le Nouveau Testament, mais je vous remercie d'en signaler l'existence et le lieu, et d'avoir recommandé à nos auditeurs de bien vouloir s'y reporter et le lire.
Bon. Oui, il y a toute une réflexion sur la notion de testament. Il montre que le Dieu des catholiques n'est pas un Dieu philosophique, un Dieu clos sur lui-même, mais un Dieu tourné vers son peuple. Alors j'en viens tout de suite au troisième texte.
Remarquez, ça c'est très pascalien. La nuit de Pascal, le mémorial, non pas le Dieu des philosophes et des prophètes, mais le Dieu d'Abraham, Isaac, etc.
Alors, le troisième texte du cardinal Ratzinger, celui prononcé le jour de son élection, évoque d'abord la personnalité d'Andrei Sakharov, puisque...
C'était normal, puisqu'il succédait à Andrei Sakharov. Et selon l'usage, il faisait l'éloge de son prédécesseur.
Alors, on retrouve dans ce texte une forme de, je ne vais pas dire de pessimisme, parce que comme tout grand personnage de l'Église catholique, il se doit de garder l'espérance. Mais après l'évocation du communisme, il écrit, je crois, il continue en disant que cette liberté se doit d'être exercée dans le droit et le bien. Alors, actualité oblige, Jean Foyer, parlons de l'Europe, le besoin d'éthique est aussi important chez le cardinal Ratzinger, autant que le besoin de référence religieuse à l'Europe pour ce même cardinal.
Mais tout à fait, d'ailleurs, dans mon discours de réception, j'ai cité d'ailleurs une phrase du cardinal Ratzinger qui est tirée de son petit livre sur l'Europe, je ne sais plus quel est le titre en français, où il parle du rôle que l'Europe doit jouer sur la Terre dans le monde. Et il dit, bien entendu, elle doit continuer à apporter au peuple en développement sa technologie et ses moyens de développement, mais ça suffira jamais si elle ne leur rapporte pas en même temps des valeurs supérieures.
Alors, je me permets de reciter le cardinal Ratzinger. Il écrit « Pour une culture et une nation, donc a fortiori pour l'Europe, se couper des grandes forces éthiques et religieuses de son histoire revient à se suicider. Malgré cette conception, dites-vous, il ne va pas à l'encontre de la laïcité. Pour lui, l'Église n'est pas un État dans l'État. »
Parce que là-dedans, l'Église n'a pas à dicter sa politique dans quelque domaine que ce soit, si ce n'est qu'elle doit rappeler aux États qu'il y a, indépendamment de toute appartenance confessionnelle, c'est en ça qu'il comprend la laïcité, un certain nombre de valeurs qui sont imposées par la morale naturelle, et si on les abandonne, on va tomber dans la confusion qu'il dénonce et qu'il redoute. Je crois que c'est ça sa pensée.
C'est un grand défenseur des conceptions morales universelles.
Ah oui, bah bien sûr.
Est-ce que le personnage, nous n'avons pas évoqué le personnage en lui-même, j'allais dire sa personnalité, comment le considérez-vous? Est-ce que d'abord, d'un point de vue, puisque c'est un universitaire, est-ce que c'est un grand pédagogue?
C'est un grand pédagogue parce qu'il a une expression très claire. Il expose les choses simplement avec le souci de les faire comprendre par tous ses auditoires. Et à cet égard, en tant que pédagogue, il est très doué. Alors c'est différent de ce qu'était son prédécesseur Jean-Paul II. Jean-Paul II avait un charisme extraordinaire. Ils en diffèrent d'ailleurs également un peu par leur formation, parce qu'ils ont été tous les deux professeurs d'ailleurs. Mais Jean-Paul II faisait de la philosophie, Benoît XVI, lui, a surtout fait de la théologie. Enfin, il a le souci de se faire comprendre et de communiquer. D'autre part, il est dans relation extrêmement agréable. Il est extrêmement gentil, il est souriant, il est bienveillant. C'est une personne qu'il est tout à fait agréable de rencontrer.
Ce qui est impressionnant à le lire, c'est qu'il met la capacité d'écoute comme vraiment une qualité.
Ah oui, absolument. Et puis d'autre part, il a une grande franchise. Il rapporte les choses telles qu'elles sont. Il dit la vérité. Vous savez, quand vous le lisez ou vous l'entendez parler, vous avez une impression de sincérité. Il vous dit les choses telles qu'elles sont, du moins telles qu'il les voit ou telles qu'il les a faites.
Il apparaît enfin comme un homme très humble.
Oui. Il n'est pas du tout orgueilleux, j'allais dire. Et vraisemblablement, il n'avait pas du tout souhaité être élu au souverain pontificat.
Alors, nous allons terminer cette émission en évoquant une idée que l'on a beaucoup lue dans les journaux, qu'il y avait un cardinal Ratzinger. Enfin, en tous les cas, un prêtre qui a participé au concile, qui est le Ratzinger 1. Il y a eu un Ratzinger 2 conservateur.
N'exagérez pas. Oui, il a voulu marquer un coup d'arrêt, comme il l'a fait dans l'affaire de la théologie de la libération.
Est-ce que vous pensez que Ratzinger 3, qui serait Benoît XVI, sera davantage proche de l'un ou bien de l'autre?
Bon, j'ai plutôt l'impression qu'il serait...